plus temps que ça, hein. Plus temps que ça, le temps passe. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Je me suis régalé à la louange, c'est pas vous. Régalé ensemble de ce refrain-là, de tout mon être, alors s'élève un chant, au Dieu d'amour que tu es grand, pris a cappella, l'église ensemble, là, waouh, un petit bout de ciel, là, moi j'ai goûté, hein. J'espère que vous aussi. Non, c'est pas le moment de faire la sieste. Hein. Donc, il va falloir que je vous tienne éveillé. Je dois dire que j'ai mis pas mal de temps, beaucoup de temps, à choisir le sujet de ma prédication. Parfois, pour créer du lien entre les dimanches, on nous demande d'intervenir sur des thèmes bien précis. C'est un peu comme un fil rouge, finalement. D'ailleurs, ça sera le cas à la rentrée. Je ne vais pas vous spoiler. En temps voulu, vous verrez quelle thématique on développera à la rentrée. Mais ce matin, c'est thème libre. Thème libre, comme on dit, eh bien parfois, thème libre, c'est pas si simple. On passe parfois tellement de temps à choisir le sujet, beaucoup plus d'ailleurs qu'à l'écrire et à le méditer et à le mettre en forme. C'est un peu comme quand on décide de regarder un film sur Netflix, vous savez, le soir, parfois on va se coucher sans rien avoir vu, tellement on a passé de temps dans les menus à hésiter, à regarder les résumés, on est fatigué et on va se coucher. Bon là, le souci, c'est qu'à un moment, il fallait que je me retrouve devant vous. Donc il fallait quand même que je choisisse. Il y a 15 jours, j'ai eu un petit blues. Je l'appelle le blues du dimanche soir. Ça m'arrive de temps en temps d'être un peu moins bien, de voir les choses un peu trop noires, même un peu d'être découragé. Je ne sais pas si ça arrive qu'à moi. Souvent d'ailleurs, c'est le dimanche soir, je ne sais pas pourquoi. Et étonnamment, ce soir-là, j'ai eu besoin d'en parler à mon épouse. C'est assez rare, je vous assure. En principe, et je pense comme pas mal d'hommes, j'ai plutôt tendance à le garder pour moi. Je le mets sous le coussin et en me disant que ça va passer avec une bonne nuit de sommeil. Mais là, non. J'avais besoin d'en parler avec Alissa. Ça doit être l'effet alpha couple, ça. C'est bien. C'est super. C'est bien. D'ailleurs, elle m'a dit que ça lui avait fait du bien que je lui en parle. Et je lui ai dit, mais c'est pas très réjouissant. Je dis, chérie, je crois que je suis un peu lassé. Je crois que je suis un peu fatigué. Je crois que je passe à côté de quelque chose. Combien des fois j'ai le sentiment de dépenser de l'énergie à vouloir faire fonctionner l'église et j'en ai plus beaucoup pour la vivre simplement. Je suis pas sûr finalement de profiter pleinement du cadeau de l'église. Je suis pas sûr de profiter pleinement de la joie de faire partie de la communauté pourtant voulue par Christ. Alors je vous rassure, je ne vais pas passer le temps qui m'a loué à vous partager mes états d'âme, surtout quand ils ne sont pas très réjouissants, mais j'ai eu une conviction en moi que finalement cette petite crise que je traversais dans un moment de faiblesse, comme je pense on en a un peu tous, un moment de fatigue, mais aussi de réflexion, ben, ça pouvait être un moyen pour moi de à la fois de me remettre du baume au cœur, mais aussi par la même occasion d'encourager l'Église, d'encourager notre communauté. Alors j'espère que ce sera l'effet escompté. Jésus nous a promis le Consolateur, et je crois que le Saint-Esprit a utilisé un peu cette situation pour me parler, me faire avancer personnellement, alors peut-être pourriez-vous en profiter. Alors tout commence après le message d'Amish. C'était, je ne sais plus, il y a deux ou trois semaines, Amish, je ne sais plus. C'était le dimanche de Pentecôte. Est-ce que vous en souvenez? Ouais. Amish nous parle de la peur que les disciples ont dû ressentir, de leurs doutes, mais surtout de leur incroyable expérience du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous savez, c'est dit comme ça dans les versets, qui vint comme un vent violent sur les disciples et qui va les rebooster pour leur permettre de répondre à leur appel, d'être envoyés pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Alors, je ne sais pas si vous faites comme moi. Moi, je suis un peu curieux des fois et j'ai tendance à aller lire après un message ce qui se passe juste derrière. Alors, savez-vous ce qui se passe juste après que les disciples aient reçu les langues de feu et se sont mis à parler en langue les merveilles de Dieu? Qu'est-ce qui se passe après ça? Ils sont allés témoigner. Avant ça, il y a quelque chose. Il y a les baptêmes qui sont encouragés, mais il y a Pierre. Pierre qui prend parole, qui annonce l'évangile. 3000 conversions. 3000 conversions. certainement la première communauté de chrétiens. C'est excellent de voir comment le Saint-Esprit, il a transformé ce disciple qui était perdu, qui avait peur, qui était chamboulé, en un incroyable prédicateur. Et qui va terminer son discours par ce verset, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et recevez le don du Saint-Esprit. » Ça, c'est au verset 38. Et juste après ça, après cet appel au changement d'attitude, à la conversion, au baptême et à la promesse du Saint-Esprit, je tombe sur ces 5 versets que j'ai déjà lus des dizaines de fois. Mais là, ils me percutent de plein fouet. Je vous propose de les découvrir et de les lire. Vous les connaissez certainement. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie, avec simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Comme c'est beau, comme c'est frais, comme ça me donne envie. Moi, je veux vivre ça. Ces versets, je vous l'ai dit, je ne les ai pas découverts pour la première fois. Mais là, devant mes yeux, cette fois, ils m'envoyaient un truc en pleine face. Un peu l'écart entre ma relation à l'Église que depuis quelque temps, que j'avais là, ce truc qui remontait, que j'avais du mal à digérer, et celle à laquelle j'aspire profondément. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Waouh, c'est ça que j'aspire à ça. Et ça, finalement, c'était pas très bon parce que ça m'a conduit tout droit à mon blues du dimanche soir. C'est pas ta faute, Amiche, hein, tiré pour rien. Je pense même que c'était nécessaire. Alors, dans ce moment de baisse de morale, de lassitude, peut-être que le premier réflexe, il aurait pu être de dire « Mais David, prends du recul. Et puis, vraiment, a-t-on besoin de l'Église? A-t-on vraiment besoin de la communauté ?» C'est vrai. Si on y pense, si le temps qu'on passe à servir, le temps de ménage, le temps des plannings, le temps des conseils, le temps de préparation du café d'accueil, de l'envoi des mails d'information, de la compta, etc., etc., il était redirigé vers un temps spirituel individuel. Est-ce que ça ne pourrait pas être suffisant, plus reposant? N'ai-je pas tout simplement besoin de prendre un peu de recul? Alors pour ceux qui auraient des doutes et qui pensent que ça pourrait être une bonne idée, les versets que je viens de lire me montrent que c'est précisément le contraire. C'est le début du christianisme. La première communauté, les gens se convertissent, ils reçoivent la révélation de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils décident? Ils décident justement de se réunir dans les maisons, tous les jours, au temple, de partager la scène, de partager leurs biens, de prendre du temps ensemble. Ça n'est pas étonnant quand on y réfléchit. Dieu est un être de relation. Déjà, même si ça reste un peu un mystère, il est trois en un. Merci. Celui qui aime, celui qui est aimé, et l'amour qui les unit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui forment un tout de relation. Comme Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance, nous sommes faits pour entretenir une relation avec lui, mais aussi avec les autres. Les plus grands commandements sont ceux d'aimer notre Dieu et d'aimer notre prochain. La plus grande preuve de notre amour pour Dieu se trouve dans notre amour pour les frères. Il y a tellement de versets qui parlent de ce sujet et qui nous encouragent dans ce sens. J'en ai choisi un dans 1 Jean 4 qui est incroyable. Il est assez long, donc j'ai juste choisi un petit passage. ça nous dit, bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. C'est comme si le Seigneur il nous disait « si vous m'aimez profondément, vous aimerez aussi ce que j'aime ». Alors c'est vrai, la spiritualité liée à la communauté peut parfois un peu nous coûter, parce que finalement elle nous oblige à aller un peu à contre-courant. À contre-courant de notre, je vais appeler ça un égocentrisme, peut-être une tendance à l'individualisme, parce que honnêtement, c'est pas tellement actuel de prendre du temps pour l'autre, de s'ouvrir à l'autre, hein, c'est pas tellement d'actualité. Et pourtant la Bible nous enseigne que nous éprouvons le plus de joie quand nous le partageons avec les autres, quand nous donnons, quand nous aimons. Je crois que même s'il n'est pas toujours facile de vivre avec les autres, ben, on s'appauvrit vraiment à vivre sans Église. Alors clairement, la prise de recul ne me semble pas la solution dans mon cheminement. J'ai donc très vite écarté le fait que la vie en communauté peut être facultative. De temps en temps, ça peut faire du bien de souffler, je ne dis pas le contraire, mais ça ne peut pas être facultatif. Et pourtant, il y a tellement de chrétiens hein, qui vivent en électrons libres et qui passent, en tout cas de mon point de vue, et je pense aussi selon la Bible, à côté de la dimension communautaire, alors que l'Église, rappelez-vous, l'épouse, la fiancée, le corps du Christ, il y en a des tas, hein, des images comme ça, incroyables. Ben, ça fait clairement partie du plan de Dieu, clairement. Et en revanche, il faut garder à l'esprit que c'est l'intimité intérieure avec Christ qui confère de l'énergie pour nos activités extérieures. Je crois que plus les croyants savent mettre à profit leur temps de solitude pour cultiver cette intimité avec le Seigneur, et plus ils sont à même de vivre en communion avec les autres de façon simple et de façon profonde. Et ça, ça m'a parlé finalement. Je crois que je n'avais pas pris le bon angle. Je crois que je m'étais trompé dans l'angle. Je crois que l'origine de mon coup de mou, il n'était pas réellement lié à la communauté. Il devait certainement provenir peut-être d'une vie spirituelle plus pauvre en ce moment. Si je ne suis pas rempli, comment remplir ? Si je ne suis pas rempli, comment donner avec plaisir ? Comment s'engager avec plaisir ? Comment faire de l'administratif une joie ? Difficile. Chacun de nous a besoin de cette alternance, de solitude avec le Seigneur et de communion. Chacun de nous a besoin de cette alternance d'intimité et d'activité. Chacun de nous a besoin d'être servi et de servir, de croissance personnelle, de croissance communautaire. Et ça, c'est parce que nous avons goûté à l'acceptation, au pardon, à l'amour de Dieu dans notre intimité, qu'on peut à nouveau transmettre cette grâce au travers du service, de nos échanges et dans nos rapports aux autres. Comme je crois que le Seigneur me travaillait sur ce sujet, un peu du déséquilibre, intimité spirituelle, solitaire et vie en communauté, je pense qu'il est bon, finalement, que chacun aussi prenne un peu de temps pour s'interroger de son rapport vis-à-vis de l'Église. Est-ce que mon rapport est de me demander ce que l'Église m'apporte ? Là, on est un peu en mode égocentrique, quand on réfléchit comme ça. Qu'est-ce que l'Église m'apporte ? Dans cette approche, je vais avoir des réflexions de type « De toute façon, si l'Église ne me nourrit pas, eh ben, autant la quitter. » Ou au contraire, est-ce que dans ma relation, mon rapport à l'Église, je suis tourné vers l'autre ? Et alors, je vais me dire que justement, j'ai été appelé dans cette communauté pour participer moi aussi à nourrir les autres. Je veux partager aux autres la grâce que Dieu m'a donnée et que je reçois dans l'intimité de ma vie. Alors dans les versets que nous avons lus sur l'Église primitive, on voit bien cette posture ouverte, cette posture tournée vers l'autre, à tel point qu'ils sont amenés même à partager tous leurs biens et à se réunir chaque jour avec plaisir. Je pense aussi que Dieu aime cette Église où les membres sont tournés les uns vers les autres. Au premier trimestre de l'année dernière, il y a eu tout un tas de sujets autour les uns vers les autres. Parce que je crois que c'est ça qui apporte la joie dans le service. C'est ça qui apporte de la dynamique. C'est soi qui apporte l'envie de partager, d'aider, de vivre ensemble. Alors mon petit coup de mou, il m'a amené à considérer que la sortie de la communauté, c'est pas la bonne solution, je vous le dis, parce que c'est précisément le plan de Dieu. Mais il a aussi appuyé sur ce point-là. Et ta vie spirituelle intime, David, est-ce qu'elle est suffisamment profonde et équilibrée pour te permettre de vivre avec joie dans la communauté ? Et même quand ça te coûte un peu du temps, de l'énergie. Alors, comme vous faites partie aussi, vous, de ma communauté, ben, je vous adresse cette même question. Surtout si, de temps en temps, vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe à l'église. Finalement, en quoi votre vie spirituelle intime va vous pousser à aider, à ouvrir vos maisons, à accompagner, à apaiser l'autre, à construire dans la simplicité de l'évangile ? J'espère que vous avez compris, hein. L'idée c'est pas de vous culpabiliser, mais plutôt vraiment de remobiliser, de se poser ces questions-là autour de ce sujet. Alors, c'était mon cheminement, j'ai pris conscience de ce besoin de mieux équilibrer, mais je vais vous partager quand même comment Dieu est gracieux et comment je suis sorti vraiment positivement de ce temps un peu compliqué. Le matin, en ouvrant mon coffre de voiture, je suis tombé sur une affiche qui est là, que les enfants ont écrit il y a un bon mois. Je ne sais pas du tout à quelle occasion, je n'ai pas été curieux. Mais je me souviens qu'ils nous l'ont amené. Et je l'avais récupéré, et ça ne se jette pas. Donc je l'avais laissé dans mon coffre. Ça faisait presque un mois qu'elle était dans mon coffre. Et donc à un moment donné, je l'ouvre et puis je la vois. Elle n'est pas en très bel état. Elle est là, elle est signée de la plupart de nos bambins de l'église. Et donc elle dit... « Chers responsables de l'Église, de la part des enfants de 6 à 8 ans de l'atelier du maître. » Peut-être qu'ils ont été un peu aidés, parce que 6 à 8 ans, pour écrire ça, c'est joli. Mais quand même, il y a des trucs qui me disent que ça vient de leur cœur. « Nous voulons vous remercier de tout ce que vous faites pour nous. Vous vous occupez de l'Église. Si vous n'étiez pas là, l'Église serait détruite. » Bon, là, ça... hein ? Bon, c'est des enfants. « Vous nous apprenez à louer le Seigneur. Vous nous amenez au baptême. Vous nous apprenez à être meilleurs tous les jours. Vous nous encouragez à monter dans les escaliers de la vie en nous lisant la Bible. On veut prier aussi pour vous, que le Seigneur vous bénisse à votre tour, qu'il protège votre famille et qu'il vous aide à surmonter les épreuves difficiles. Laura, James, Prisca, Salomé, etc. etc. » On pourrait l'afficher quelque part, peut-être. Elle est mieux que dans mon coffre. Au-delà des quelques lignes, il y a aussi un truc qui revenait à mon esprit. Toutes ces personnes qui s'engagent pour prendre soin de nos enfants, de mes enfants, pour les enseigner, pour leur transmettre l'amour de Dieu, et tout ceci dimanche après dimanche, sans aucune contrepartie, si ce n'est de donner de l'amour aux petits. Il faut pourtant se les coltiner, les petits garçons, je vous l'ai dit. Moi, j'avais 6 jours et demi sur 7, mais pas facile. Et pourtant, tellement de fidélité, poussée par l'amour qu'ils ont eux aussi ressenti, poussée par le besoin de s'ouvrir à ces enfants et de leur transmettre. Et le dimanche suivant, venant au culte, une nouvelle grâce du Seigneur, je découvre le tableau de l'espace social qui était là-bas. Je ne sais pas s'il était là ce matin, Fabienne. Et il y a Fabienne qui vient me voir pendant que je suis en train de regarder, parce que je les découvre, et qui me dit avec beaucoup de joie et d'espérance, elle m'explique son fonctionnement. Elle m'explique qu'elle espère mettre en contact des frères et des sœurs de l'Église pour, par exemple, elle m'a donné cet exemple, organiser le taxi de quelqu'un qui ne pouvait pas venir au culte par ses propres moyens. Et là, je vois dans ses yeux et dans son engagement, ce que je peux lire aussi dans Acte 2, l'envie de prendre soin de l'autre. Simplement, je détecte un besoin. J'ai envie d'y répondre. Je vois aussi l'équipe café venir dimanche après dimanche à 8h30 pour que chacun puisse se sentir accueilli. Et qui sait aussi prendre sous son aile les enfants, les miens notamment, qui ont aussi le désir, quand ils voient ça, de servir. Alors j'ai fait un reset. le changement d'angle, il faisait du bien. Et après, je me suis rendu compte que pour pouvoir exprimer ses services, pour pouvoir exprimer cette ouverture, pour prendre soin de l'autre, eh ben ouais, il faut un peu de fonctionnel, il faut des plannings, il faut des réunions, il faut des budgets, il faut un peu d'organisation. Ça n'est pas finalement très contradictoire avec le fait de réellement vivre l'Église. Bien entendu, il y a un point de vigilance, et vous en doutez. C'est que cette organisation, elle doit être au service de la vie. Ça ne doit pas être un carcan qui enferme et empêche les initiatives. Au service de la vie. Il y a un autre point qui me semble indispensable. C'est, rappelons-nous que quand nous servons Christ. Ça change la perspective aussi. Ça me fait penser à ce verset dans Éphésiens 4 qui rappelle que Christ est la tête. Christ est la tête. C'est de lui que tout le corps tout entier, pardon, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacun, à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors bien entendu, de ces quelques versets sur l'Église primitive, qui est toujours affiché d'ailleurs, on pourrait faire de très très nombreux messages. Il y a plein de choses à dire. D'ailleurs, on va faire un petit exercice pour vous réveiller là. À la lecture de ces versets, vous avez 5 mots pour me dire qu'est-ce qui vous touche là-dedans. Ensemble. Simplicité de cœur. Partager. Sauver. Persévérer. Persévérance, absolument. Avec joie. Amen. Pardon ? Trouver grâce. Prière. Merci. C'est beau. Je crois qu'on doit tous aspirer à vivre ces choses. Certaines, on les pratique déjà. Pour d'autres, on doit se mobiliser davantage. On doit s'encourager. On doit rêver de les vivre ensemble. Alors, vu que moi, c'est moi qui ai la parole ce matin, je vais terminer par 2 mots que j'ai choisis, 2 focus rapides. Des choses qui m'ont challengé un peu. Parce qu'il ne convient pas ce matin juste simplement de dire « tout va bien, finalement, ne changeons rien ». Je crois qu'on est tout le temps en marche. Et donc, j'ai réfléchi, quand je lis ça, c'est quoi ma prochaine marche pour moi ? Vous avez été touchés chacun par d'autres, des choses différentes, c'est très bien. Personnellement, moi, je retiens un mot qui a été dit, prière. Il persévérait dans la prière. On a une culture d'église qui permet à chacun librement, le dimanche matin, vous l'avez vu, d'exprimer sa louange, sa prière, sa reconnaissance. Je crois que c'est un moment hyper important de notre culte. Et il faut vraiment le choyer. Je le souligne car ce n'est pas partout comme ça. À Lissal, ses parents ont une très très belle église. Il y a 1000 personnes par culte, au moins 2 cultes dans la journée. Et il y a une seule personne qui est désignée pour lire une prière. Si nombreux, je peux comprendre ce choix. On ne peut pas laisser l'opportunité à chacun. Nous, on a cette possibilité-là. C'est une belle opportunité offerte à chacun d'entre nous. Mais quand même, je suis convaincu qu'il nous faudrait davantage réinvestir des temps de prière communautaire. En tout cas, c'est ça, à ça que ça m'amène. Quand on regarde les actes, on perçoit dans de nombreux versets, là, des versets qui vont s'enchaîner d'ailleurs, l'importance de la prière communautaire qui est au cœur de l'Église. Si vous êtes curieux, après, et que vous prenez les chapitres qui suivent, comme j'ai fait avec Amish, vous verrez qu'il y a beaucoup de fois où l'Église se mobilise dans une prière communautaire. Rien qu'en acte 4, il y a une guérison miraculeuse. Pierre et Jacques sont menacés par les religieux et ils leur demandent « Stop, vous ne parlez plus de l'Évangile ». C'est une vraie menace. Et là, l'Église, elle prend immédiatement le relais et elle prie pour la protection et l'assurance des apôtres afin qu'ils puissent continuer à annoncer la bonne nouvelle. Ils s'adressent à Dieu tous ensemble, c'est dans le verset 23, dans acte 4. Et quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient trembla. Ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient à nouveau la parole de Dieu avec assurance. Quelques chapitres plus tard encore, Pierre est arrêté, il est en prison. Et le texte nous dit que l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La prière communautaire de l'ensemble des croyants de l'Église, de la première Église, il était vraiment ancré. Il était prioritaire pour l'Église. Et je crois qu'on doit se réapproprier ces moments-là. Je sais que Paul nous en a parlé, je ne le savais pas à cette époque, qu'il y a une réflexion, en tout cas là-dessus, même pourquoi pas, de réintroduire des temps de prière avant le culte. Je crois qu'il faut y réfléchir et pourquoi pas s'engager là-dedans. Je sais aussi qu'on a planifié une semaine de jeûne et prière pour l'année à venir. Je crois que c'est une clé pour que notre communauté elle avance ensemble et qu'elle puisse être présente aussi dans le combat spirituel, dans la persévérance. Parce que la prière, ça demande aussi de la persévérance. Dans l'écoute du Saint-Esprit, ça implique aussi d'être aiguisé à l'écoute du Saint-Esprit. Et ça va amener de la proximité avec notre Dieu et avec le frère qui prie à m'écouter. Et le deuxième point, qui me semble important de continuer à développer, c'est une vision commune. Une vision commune qu'on s'approprie, qui nous unit en tant qu'assemblée et qui nous pousse vers l'avant. J'ai lu pas mal de choses à ce propos, et notamment dans le livre qui s'appelle « Façonner à son image », il y a l'auteur qui écrit « Toute église locale et tout ministère devrait définir et faire connaître son objectif. » Après en avoir fait un sujet de prière, vous voyez, avant, après en avoir fait un sujet de prière, de manière à ce que les membres puissent embrasser une vision commune quant à leur place et à leur temps dans le déroulement de l'histoire. Je trouve que c'est très sage. Et moi, quand je lis Acte 2, moi, je suis convaincu que cette première communauté chrétienne, elle savait ce qu'elle voulait vivre. Elle était poussée par le Saint-Esprit, mais ils étaient tous ensemble dans ce même esprit. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Toujours dans Actes, au chapitre 4, il y a d'autres versets qui décrivent la vie des premiers croyants. Et là, il y en a un qui m'a plu et qui était « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ils sont liés ensemble. Ils ont bénéficié chacun de la même révélation, chacun de la même grâce. Et ça, ça les pousse à pousser dans la même direction. Alors, nous avons déjà eu l'occasion de parler de la vision pour notre communauté en tant que telle. Elle se décline en 5 axes. Je ne sais pas si tu peux appuyer sur le bouton ou descendre. Vous la voyez à l'écran. C'est peut-être un peu petit, je ne sais pas. Et peut-être que c'est un rappel ou alors une découverte, parce qu'il y a beaucoup de gens nouveaux aussi dans l'Église. Et donc, quand j'ai lu ces 5 axes, je me suis rendu compte que tous ne sont pas autant développé que ce que je voudrais, mais c'est une vision. C'est OK, mais c'est un désir d'aller vers ça. Il y a une autre chose qui m'a marqué et qui m'a fait du bien. Vous savez quoi, il me semble retrouver dans ces 5 axes l'essence même de ce qui me faisait tellement envie dans Acte 2. Vivre l'Église comme une famille en Christ et intergénérationnelle. C'est le premier. C'est clairement ce que vivent ces premiers chrétiens au quotidien, dans leur partage, dans la prise en commun de la scène, des repas, dans la simplicité de cœur, dans le fait de se retrouver petits et grands, dans des maisons, il n'y avait pas des églises comme là, hein, et au temple. Deuxième, partager l'évangile et impacter la ville et sa région. Il y a une petite phrase, vous ne l'avez pas citée, qui n'est pas neutre au verset 47 de Acte 2, qui dit « Ils avaient la faveur de tout le peuple ». Ils avaient donc un bon témoignage, en dehors, et même pour ceux qui ne partageaient pas leur foi. Moi, ça m'a rendu heureux de voir que le comité de quartier, que la fête des voisins, que le vide-grenier s'est déroulé dans notre église. Par contre, je crois que pour la prochaine occasion, il faudrait que l'église se mobilise davantage. C'est rare que les non-croyants viennent jusqu'ici. Ils étaient là, dans le parc. Je crois que ça me pousse et ça m'a questionné à dire peut-être qu'il aurait fallu travailler davantage l'accueil, pourquoi on n'aurait pas pu faire des chants, on aurait pu faire des contacts, etc. Donc ça me pousse. Mais c'était déjà une première marche de les avoir ici. Je suis heureux aussi de voir ces actions un peu presque historiques, hein, au travers de la maison des parents, le Noël du cœur, les actions à Séguier, main tendue. Mais j'aspire encore davantage à impacter notre quartier, notre ville, comme l'ont fait ces premières communautés qui ont impacté le monde. Troisième axe, une église ressource qui équipe et soutient ses membres. Vous l'avez vu, hein, les premiers chrétiens, pourtant Saint-Esprit qui vient les toucher, 3000 conversions, ben, ils n'ont pas été lâchés dans la nature. On voit bien que la première chose fondamentale, c'est qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça doit aussi nous guider à être fidèles dans l'enseignement et à être attentifs à ça. Quatrième axe, une église en réseau et au service des autres églises. Ma femme, elle en est témoin. J'adore quand les églises, elles collaborent entre elles. Ça me fait vibrer souvent. Et dans Acte 2, bien évidemment, il n'y avait pas d'église comme aujourd'hui. Mais on perçoit sans difficulté, finalement, les échanges entre les chrétiens. Ils étaient 3000, puis 5000. Il n'y avait pas une maison suffisante pour accueillir tous ces gens. Il n'y avait pas qu'un seul enseignant. Mais on voit bien, et on imagine bien, ces nouveaux chrétiens se réunir, agrandir leur cercle et travailler ensemble pour annoncer l'évangile. Et le dernier axe, encourager et soutenir la mission au près et au loin. La mission d'annoncer l'évangile, c'était au cœur des préoccupations de la première église. Cette annonce, elle avait du succès. Vous voyez que le Seigneur rajoutait les nouveaux membres à l'église. Nous aussi, on doit s'emparer de cette orientation. C'est peut-être une des plus difficiles. En tout cas, pour moi, c'est une des plus difficiles. Alors, vous l'avez compris, hein, je ne fais pas cet exercice pour justifier de notre vision. Hein. Pas du tout ça, l'esprit. C'était qu'au contraire, que quand je l'ai relu, je me suis dit, waouh, ce qu'on me propose dans Acte 2, je peux aussi le vivre ici. Par contre, ça doit encourager chacun d'entre nous à se l'approprier. Car si l'Église qui vous est décrite vous fait autant dans Acte 2, vous fait autant envie que moi, eh bien c'est précisément ce à quoi nous aspirons en tant que conseil quand on a développé ces orientations et qu'on vous les a présentées. Pour cela, il faut s'unir autour d'une pensée commune et surtout demander l'aide du Saint-Esprit en restant attentif à ses directions. Ça implique que chacun d'entre nous se demande comment il peut être partie prenante de ça, comment il peut participer, comment il peut être utile à l'avancée du royaume de Dieu, avec ses propres dons, avec son propre temps. C'est aussi aux responsables d'église, aux responsables d'activité, d'être attentifs pour ouvrir nos services au plus grand nombre et laisser l'opportunité à chacun d'être un serviteur. J'en viens à la fin de ce message et j'aimerais qu'on chante deux chants ensemble. Donc je vais rappeler l'équipe de louanges parce que je trouve que ce sont des chants engageants. Et si comme moi, cette église d'Acte 2, elle vous parle, elle vous donne envie, je vous propose de vous lever pour chanter ces chants. Et je pense qu'il faut qu'on prenne l'engagement de prier pour l'église. Je pense qu'il faut qu'on prenne l'engagement de prier pour l'action du Saint-Esprit dans ces murs. Je pense qu'il faut qu'on prenne l'engagement d'être renouvelé de joie dans le service. Je pense qu'il faut qu'on prenne l'engagement de prier, de réfléchir comment on peut être une bénédiction pour les autres. Comment être un outil dans les mains de Dieu? Comment on peut amener de la simplicité et de la joie dans nos relations? En tout cas, c'est ma prière. Finalement, comment on peut être partie prenante, unie, pour faire avancer cette Église?
Nous venons devant ton trône, Seigneur de la terre, pour trouver ta présence. Devant toi nos vies résonnent, Seigneur de la terre, du chant de ton alliance. Nous venons devant le trône, Seigneur de la terre, pour trouver ta présence. Devant toi nos vies résonnent, Seigneur de la terre.